Chapitre 8. Le chat, l'huissier et le squelette. L'effet produit par le récit de M. Ledru fut terrible. Nul de nous ne songea à réagir contre cette impression, pas même le docteur. Le chevalier Lenoir, interpellé par M. Ledru, répondait par un simple signe d'adhésion. La dame pâle, qui s'était un instant soulevée sur son canapé, était retombée au milieu de ses coussins et n'avait donné signe d'existence que par un soupir. Le commissaire de police, qui ne voyait pas dans tout cela matière à verbaliser, ne soufflait pas le mot. Pour mon compte, je notais tous les détails de la catastrophe dans mon esprit, afin de les retrouver s'il me plaisait de les raconter un jour. Et quant à Aliette et l'abbé Moule, l'aventure rentrait trop complètement dans leurs idées pour qu'ils essayassent de la combattre. Au contraire, l'abbé Moule rompit le premier le silence et résumant en quelque sorte l'opinion générale, « Je crois parfaitement ce que vous venez de nous raconter, mon cher Ledru, dit-il. Mais comment vous expliquez-vous ce fait, comme on dit en langage matériel ?» « Ben, ne me l'explique pas, dit M. Ledru, je le raconte, voilà tout. »« Oui, comment l'expliquez-vous ? Demanda le docteur. « Car enfin, quelle que soit la persistance de la vie, vous n'admettez pas qu'au bout de 2 heures, une tête coupée parle, regarde et agisse. « Si je me l'étais expliqué, mon cher docteur, dit M. Ledru, je n'aurais pas fait, à la suite de cet événement, une si terrible maladie. » « Mais enfin, docteur, dit le chevalier Lenoir, comment l'expliquez-vous vous-même, car vous n'admettez point que Ledru vienne de nous raconter une histoire inventée à plaisir. Sa maladie est un fait matériel aussi. »« Barbleu, la belle affaire, par une hallucination. Monsieur Ledru a cru, moi. Monsieur Ledru a cru entendre, c'est exactement pour lui comme s'il avait vu et entendu. » Les organes qui transmettent la perception au sensorium, c'est-à-dire au cerveau, peuvent être troublés par les circonstances qui influent sur eux. Dans ce cas-là, ils se troublent et en se troublant, transmettent des perceptions fausses. On croit entendre, on entend. On croit voir et on voit. Le froid, la pluie, l'obscurité avaient troublé les organes de M. Ledru, voilà tout. Le fou aussi voit et entend ce qu'il croit voir et entendre. L'hallucination est une folie momentanée. On en garde la mémoire lorsqu'elle a disparu, voilà tout. Mais quand elle ne disparaît pas, demanda l'abbé Moule. Eh bien alors, la maladie rentre dans l'ordre des maladies incurables et l'on en meurt. Et avez-vous traité parfois ces sortes de maladies, docteur ? « Non, mais j'ai connu quelques médecins les ayant traités, et entre autres un docteur anglais qui accompagnait Walter Scott à son voyage en France. »« Lequel vous a raconté ?»« Oh, quelque chose de pareil à ce que vient de vous dire notre hôte. »« Oh, quelque chose peut-être de plus extraordinaire même. »« Et que vous expliquez par le côté matériel ?» demanda l'abbé Moule. « Naturellement. » Et ce fait qui vous a été raconté par le docteur anglais, vous pouvez nous le raconter à nous ? Sans doute. Ah, mais racontez, docteur, racontez. Le faut-il ? Ah, mais sans doute ! S'écria tout le monde. Soit. Bien, le docteur qui accompagnait Walter Scott en France se nommait le docteur Simpson. C'était un des hommes les plus distingués de la faculté d'Édimbourg et lié par conséquent avec les personnes les plus considérables de la ville. Au nombre de ces personnes était un juge au tribunal criminel dont il ne m'a pas dit le nom. Le nom était le seul secret qu'il trouva convenable de garder dans toute cette affaire. Ce juge, auquel il donnait des soins habituels comme docteur, sans aucune cause apparente de dérangement dans la santé, dépérissait à vue d'œil. Une sombre mélancolie s'était emparée de lui. Sa famille avait, en différentes occasions, interrogé le docteur, et le docteur, de son côté, avait interrogé son ami sans tirer autre chose de lui que des réponses vagues qui n'avaient fait qu'irriter son inquiétude, en lui prouvant qu'un secret existait, mais que ce secret, la malade ne voulait pas le dire. Enfin, un jour, le docteur Simpson insista tellement pour que son ami lui avouât qu'il était malade, que celui-ci lui prenait les mains avec un sourire triste. « Eh bien oui, lui dit-il, je suis malade. Et ma maladie, cher docteur, est d'autant plus incurable qu'elle est tout entière dans mon imagination. »« Comment dans votre imagination ?»« Oui, je deviens fou. »« Vous devenez fou et en quoi ? Je vous le demande. »« Vous avez le regard lucide, la voix calme. » Il lui prit la main. « Le pouls excellent !»« Et voilà justement ce qui fait la gravité de mon état, cher docteur. C'est que je le vois et que je le juge. »« Mais enfin, en quoi consiste votre folie ?»« Fermez la porte, qu'on ne nous dérange pas, docteur, et je vais vous le dire. » Le docteur ferma la porte et revint s'asseoir près de son ami. « Vous rappelez-vous, lui dit le juge, le dernier procès criminel dans lequel j'ai été appelé à prononcer un jugement ?»« Ah oui, sur un bandit écossais qui a été par vous condamné à être pendu et qui l'a été. »« Justement. » »« Eh bien, au moment où je prononçais l'arrêt, une flamme jaillit de ses yeux et il me montra le poing me menaçant. Je n'y fis point attention. » De pareilles menaces sont fréquentes chez les condamnés. Mais le lendemain de l'exécution, le bourreau se présenta chez moi, me demandant humblement pardon de sa visite, mais me déclarant qu'il avait cru devoir m'avertir d'une chose. Le bandit était mort en prononçant une espèce de conjuration contre moi et en disant que le lendemain à 6 heures, heure à laquelle il avait été exécuté, j'aurai de ses nouvelles. Oh, je crus à quelques surprises de ses compagnons, à quelques vengeances à main armée. Et lorsque, vers 6 heures, je m'enfermai dans mon cabinet avec une paire de pistolets sur mon bureau. 6 heures sonnèrent à la pendule de ma cheminée. J'avais été préoccupé toute la journée de cette révélation de l'exécuteur. Mais le dernier coup de marteau vibra sur le bronze, sans que j'entendisse rien d'autre chose qu'un certain ronronnement dont j'ignorais la cause. Je me retournai, et j'aperçus un gros chat noir et couleur de feu. Comment était-il entré ? C'était impossible à dire. Mes portes et mes fenêtres étaient closes. Il fallait qu'il eût été enfermé dans la chambre pendant la journée. Je n'avais pas goûté, je sonnai mon domestique, vint, mais il ne put entrer puisque je m'étais enfermé en dedans. J'allai à la porte et je l'ouvris. Alors je lui parlai du chat noir et couleur de feu. Mais nous le cherchâmes inutilement, il avait disparu. Je ne m'en préoccupais point davantage. La soirée se passa, la nuit vint, puis le jour, puis la journée s'écoula, puis 6 heures sonnèrent. Au même instant, j'entendis le même bruit derrière moi, et je vis le même chat. Cette fois, il sauta sur mes genoux. Oh, je n'ai aucune antipathie pour les chats, et cependant, cette familiarité me causa une impression désagréable. Je le chassai de dessus mes genoux. Mais à peine fut-il à terre, qu'il sauta de nouveau sur moi. Je le repoussai, mais aussi inutilement que la première fois. Alors je me levai, je me promenai par la chambre, le chat me suivit pas à pas. Impatienté de cette insistance, je sonnai comme la veille, mon domestique entra. Mais le chat s'enfuit sous le lit, et nous le cherchâmes inutilement. Une fois sous le lit, il avait disparu. Je sortis pendant la soirée, je visitai deux ou trois amis, puis je revins à la maison où je rentrai grâce à un passe-partout. Comme je n'avais point de lumière, je montai doucement l'escalier de peur de me heurter à quelque chose. En arrivant à la dernière marche, j'entendis mon domestique qui causait avec la femme de chambre de ma femme. Mon nom prononcé fit que je prêtais attention à ce qu'il disait, et alors je l'entendis raconter toute l'aventure de la veille et du jour. Seulement, il ajoutait « Oh, il faut que monsieur devienne fou. Il n'y avait pas plus de chat noir et couleur de feu dans la chambre qu'il y en avait dans ma main. » Ces quelques mots m'effrayèrent. Ou la vision était réelle, ou elle était fausse. Si la vision était réelle, j'étais sous le poids d'un fait surnaturel. Et si la vision était fausse, si je croyais voir une chose qui n'existait pas, comme l'avait dit mon domestique, je devenais fou. Vous devinez, mon cher ami, avec quelle impatience, mêlée de crainte, j'attendis 6 heures. Le lendemain, sous un prétexte de rangement, je retins mon domestique près de moi. 6 heures sonnèrent, tandis qu'il était là. Au dernier coup du timbre, j'entendis le même bruit et je revis mon chat. Il était assis à côté de moi. Je demeurai un instant sans rien dire, espérant que mon domestique apercevrait l'animal et m'en parlerait le premier. Mais il allait et venait dans ma chambre sans paraître rien voir. Je saisis un moment où, dans la ligne qu'il devait parcourir pour accomplir l'ordre que j'allais lui donner, il lui fallait passer presque sur le chat. « Mettez ma sonnette sur ma table, John, lui dis-je. » Il était à la tête de mon lit, la sonnette était sur la cheminée. Pour aller de la tête de mon lit à la cheminée, il lui fallait nécessairement marcher sur l'animal. Il se mit en mouvement, mais au moment où son pied allait se poser sur lui, le chat sauta sur mes genoux. John ne le vit pas, ou du moins ne parut pas le voir. J'avoue qu'une sueur froide passa sur mon front et que ces mots « Il faut que monsieur devienne fou » se représentèrent d'une façon terrible à ma pensée. « John, lui dis-je, vous ne voyez rien sur mes genoux ?» John me regarda, puis comme un homme qui prend une résolution, « Si, monsieur, dit-il, je vois un chat, je respirai. » Je pris le chat et lui dis, « En ce cas, John, portez-le dehors, je vous prie. » Ses mains vinrent au-devant des miennes. Je lui posai l'animal sur les bras, puis sur un signe de moi, il sortit. Oh, j'étais un peu rassuré. Pendant 10 minutes, je regardais autour de moi avec un reste d'anxiété. Mais, n'ayant aperçu aucun être vivant appartenant à une espèce animale quelconque, je résolus de voir ce que John avait fait du chat. Je sortis donc de ma chambre dans l'intention de le lui demander, lorsqu'en mettant le pied sur le seuil de la porte du salon, j'entendis un grand éclat de rire qui venait du cabinet de toilette de ma femme. Je m'approchai doucement sur la pointe du pied et j'entendis la voix de John. « Ma chère amie, disait-il à la femme de chambre, monsieur ne devient pas fou. Non, non, il l'est. Sa folie, tu sais, c'est de voir un chat noir et couleur de feu. Ce matin, il m'a demandé si je ne voyais pas un chat sur ses genoux. Et qu'as-tu répondu ? Demanda la femme de chambre. Oh, par Dieu, J'ai répondu que je le voyais, dit John. Pauvre cher homme, j'ai pas voulu le contrarier. Alors devine ce qu'il a fait. Comment veux-tu que je devine? Eh bien, il a pris le prétendu chat sur ses genoux. Il me l'a posé sur les bras. Il m'a dit « Emporte, emporte !» J'ai bravement emporté le chat. Et il a été satisfait. Mais si tu as emporté le chat existait donc. Eh non, le chat n'existait que dans son imagination. Mais à quoi cela lui aurait-il servi quand je lui aurais dit la vérité? À me faire mettre à la porte, ma foi non, je suis bien ici et j'y reste. Il me donne 25 livres par an pour voir un chat, je le vois. Qu'il m'en donne 30 et j'en verrai les deux. Je n'eus pas le courage d'en entendre davantage. Je poussai un soupir et je rentrai dans ma chambre. Ma chambre était vide. Le lendemain, à 6 heures, comme d'habitude, mon compagnon se retrouva près de moi et me disparut que le lendemain au jour. « Que vous dirai-je, mon ami ? » continua le malade pendant un mois. La même apparition se renouvela chaque soir, et je commençais à m'habituer à sa présence. Quand le 30e jour après l'exécution, 6 heures sonnèrent sans que le chat parût. Je crus en être débarrassé. Je ne dormis pas de joie. Toute la matinée du lendemain, je poussais, pour ainsi dire, le temps devant moi. J'avais hâte d'arriver à l'heure fatale. De 5 heures à 6 heures, mes yeux ne quittèrent pas ma pendule. Je suivais la marche de l'aiguille, avançant de minute en minute. Enfin, elle atteignit le chiffre 12. Le frémissement de l'horloge se fit entendre. Puis le marteau frappa, le premier coup, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième enfin. Au sixième coup, ma porte s'ouvrit, dit le malheureux juge. Et je vis entrer une espèce d'huissier de la chambre, costumé comme s'il eût été au service du Lord Lieutenant d'Écosse. Ma première idée fut que le Lord Lieutenant m'envoyait quelques messages, et j'étendis la main vers mon inconnu. Mais il ne parut avoir fait aucune attention à mon geste, et il vint se placer derrière mon fauteuil. Je n'avais pas besoin de me retourner pour le voir. J'étais en face d'une glace, et dans cette glace, je le voyais. Je me levai, et je marchais. Il me suivit à quelques pas. Je revins à ma table, et je sonnai. Mon domestique parut, mais il ne vit pas plus l'huissier qu'il n'avait vu le chat. Je le renvoyai, et je restai avec cet étrange personnage que j'eus le temps d'examiner tout à mon aise. Il portait l'habit de cour, des cheveux en bourse, l'épée au côté, une veste brodée au tambour et son chapeau sous le bras. À 10 heures, je me couchai alors, comme pour passer de son côté la nuit le plus commodément possible, il s'assit dans un fauteuil en face de mon lit. Je tournai la tête du côté de la muraille, mais comme il me fut impossible de m'endormir, 2 ou 3 fois je me retournai, et 2 ou 3 fois, à la lumière de ma veilleuse, je le vis dans le même fauteuil. Lui non plus ne dormait pas. Enfin, je vis les premiers rayons du jour se glisser dans ma chambre à travers les interstices des jalousies. Je me retournai une dernière fois vers mon homme. Il avait disparu, le fauteuil était vide. Jusqu'au soir, je fus débarrassé de ma vision. Le soir, il y avait réception chez le grand commissaire de l'église. Sous prétexte de préparer mon costume de cérémonie, j'appelai mon domestique à 6 heures moins 5 minutes. lui ordonnant de pousser les verrous de la porte. Il obéit. Au dernier coup, le 6 heures, je fixai les yeux sur la porte s'ouvrit, et mon huissier entra. J'allai immédiatement à la porte était refermée, les verrous semblaient n'être point sortis de leur gâche. Je me retourne, l'huissier était derrière mon fauteuil, et John allait et venait par la chambre, sans paraître le moins du monde préoccupé de lui. Il était évident qu'il ne voyait pas plus l'homme qu'il n'avait vu l'animal. Je m'habillai. Alors, il se passa une chose singulière. Plein d'attention pour moi, mon nouveau commensal aidait John dans tout ce qu'il faisait, sans que John s'aperçût qu'il fût aidé. Ainsi, John tenait mon habit par le collet, le fantôme le soutenait par les pans. Ainsi, John me présentait ma culotte par la ceinture, le fantôme la tenait par les jambes. Je n'avais jamais eu de domestique plus officieux. L'heure de ma sortie arriva. Alors, au lieu de me suivre, l'huissier me précéda, se glissa par la porte de ma chambre, descendit l'escalier, se tint le chapeau sous le bras derrière John qui ouvrait la portière de la voiture, et quand John l'eut fermé et eut pris sa place sur la tablette de derrière, il monta sur le siège du cocher qui se rangea à droite pour lui faire place. À la porte du grand commissaire de l'église, la voiture s'arrêta, John ouvrit la portière, mais le fantôme était déjà à son poste derrière lui. À peine avais-je mis pied à terre que le fantôme s'élança devant moi, passant à travers les domestiques qui encombraient la porte d'entrée et regardant si je le suivais. Alors l'envie me prit de faire sur le cocher lui-même l'essai que j'avais fait sur John. « Patrick, lui demandai-je, quel était donc l'homme qui était près de vous ?»« Quel homme, votre honneur ?» demanda le cocher. « L'homme qui était sur votre siège ?» Patrick roula de gros yeux étonnés en regardant autour de lui. « Alors, c'est bien, lui dis-je, je me trompais. » Et j'entrai à mon tour. L'huissier s'était arrêté sur l'escalier et m'attendait. Dès qu'il me vit reprendre mon chemin, il reprit le sien, entra devant moi comme pour m'annoncer dans la salle de réception. Puis, moi entré, il alla reprendre dans l'antichambre la place qui lui convenait. Comme à John et comme à Patrick, le fantôme avait été invisible à tout le monde. C'est alors que ma crainte se changea en terreur et que je compris que véritablement je devenais fou. Ce fut à partir de ce soir-là que l'on s'aperçut du changement qui se faisait en moi. Chacun me demanda quelle préoccupation me tenait, vous comme les autres. Je retrouvai mon fantôme dans l'antichambre. Comme à mon arrivée, il courut devant moi à mon départ, remonta sur le siège, rentra avec moi à la maison, derrière moi dans ma chambre, et s'assit dans le fauteuil où il s'était assis la veille. Alors je voulus m'assurer s'il y avait quelque chose de réel et surtout de palpable dans cette apparition. Je fis un violent effort sur moi-même et j'allai à reculons m'asseoir dans le fauteuil. Je ne sentis rien, mais dans la glace, je le vis debout derrière moi. Comme la veille, je me couchais, mais à 1 heure du matin seulement. Aussitôt que je fus dans mon lit, je le vis dans mon fauteuil. Le lendemain, au jour, il disparut. La vision dura un mois. Au bout d'un mois, elle manqua ses habitudes et faillit d'un jour. Cette fois, je ne crus plus comme la première à une disparition totale, mais à quelques modifications terribles. Et au lieu de jouir de mon isolement, j'attendis le lendemain avec effroi. Le lendemain, au dernier coup de 6 heures, j'entendis un léger frôlement dans les rideaux de mon lit, et au point d'intersection qu'il formait dans la ruelle contre la muraille, j'aperçus un squelette. Cette fois, mon ami, vous comprenez, c'était, si je puis m'exprimer ainsi, l'image vivante de la mort. Le squelette était là, immobile, me regardant avec ses yeux vides. Je me levai, je fis plusieurs tours dans ma chambre. La tête me suivait dans toutes mes évolutions. Les yeux ne m'abandonnèrent pas un instant. Le corps demeurait immobile. Cette nuit, je n'eus point le courage de me coucher. Je dormis, ou plutôt je restai les yeux fermés dans le fauteuil où se tenait d'habitude le fantôme, dont j'étais arrivé à regretter la présence. Au jour, le squelette disparut. J'ordonnai à John de changer mon lit de place et de croiser les rideaux. Au dernier coup de 6 heures, j'entendis le même frôlement. Je vis les rideaux s'agiter, puis j'aperçus les extrémités de 2 mains osseuses qui écartaient les rideaux de mon lit. Et les rideaux écartés, le squelette prit dans l'ouverture la place qu'il avait occupée la veille. Cette fois, j'eus le courage de me coucher. La tête, qui comme la veille m'avait suivi dans tous mes mouvements, s'inclina alors vers moi. Les yeux, qui comme la veille ne m'avaient pas un instant perdu de vue, se fixèrent alors sur moi. Vous comprenez, et la nuit que je passais, eh bien, mon cher docteur, voici 28 nuits pareilles que je passe. Maintenant, vous savez ce que j'ai. Entreprendrez-vous encore de me guérir? J'essaierai du moins, répondit le docteur. Et comment cela, voyons? Je suis convaincu que le fantôme que vous voyez n'existe que dans votre imagination. Mais que m'importe qu'il existe ou n'existe pas, si je le vois. Vous voulez que j'essaye de le voir, moi? Je ne demande pas mieux. Quand cela? Le plus tôt possible, demain. Soit demain. Jusque-là, bon courage. Le malade sourit tristement. Le lendemain, à 7 heures du matin, le docteur entra dans la chambre de son ami. « Eh bien, lui demanda-t-il, le squelette ?»« Mais il vient de disparaître, répondit celui-ci d'une voix faible. « Eh bien, nous allons nous arranger de manière à ce qu'il ne revienne pas ce soir. » En fait, d'abord, vous dites qu'il entre au dernier tintement de 6 heures. Oui, sans faute. Commençons par arrêter la pendule. Et il fixa le balancier. Et que voulez-vous faire? Je veux vous ôter la faculté de mesurer le temps. Bien. Maintenant, nous allons maintenir les persiennes fermées, croiser les rideaux des fenêtres. Mais pourquoi cela? Toujours dans le même but, afin que vous ne puissiez vous rendre aucun compte de la marche de la journée. Bien, faites. Les persiennes furent assurées, les rideaux tirés, on alluma des bougies. Tenez un déjeuner et un dîner prêt, John, dit le docteur. Nous ne voulons pas être servis à des heures fixées, mais seulement quand j'appellerai. Vous attendez, John, dit le malade. Oui, monsieur. puis donnez-nous des cartes, des dés, des dominos et laissez-nous. » Les objets demandés furent apportés par John qui se retira. Le docteur commença de distraire le malade de son mieux, tantôt causant, tantôt jouant avec lui. Puis lorsqu'il eut faim, il sonna. John, qui savait dans quel but on avait sonné, apporta le déjeuner. Après le déjeuner, la partie commença et fut interrompue par un nouveau coup de sonnette du docteur. John apporta le dîner. On mangea, on but, on prit le café, et l'on se remit à jouer. La journée paraît longue, ainsi passée en tête à tête. Le docteur crut avoir mesuré le temps dans son esprit et que l'heure fatale devait être passée. « Eh bien, » dit-il en se levant, « victoire !»«
Comment victoire ?» demanda le malade.
« Sans doute, il doit être au moins 8 ou 9 heures, et le squelette n'est pas venu. »
« Oh, regardez à votre montre, docteur, puisque c'est la seule qui aille dans la maison. Et s'il aurait passé, ma foi, comme vous, je crierais victoire. »
Le docteur regarda sa montre, mais ne dit rien.
« Vous vous étiez trompé, n'est-ce pas, docteur ?» dit le malade. « Il est 6 heures juste. »«
Oui, eh bien. »«
Eh bien... » Voilà le squelette qui entre.
Et le malade se rejeta en arrière avec un profond soupir. Le docteur regarda de tous côtés.
Mais où le voyez-vous donc ? Demanda-t-il. À sa place habituelle, dans la ruelle de mon lit, entre les rideaux.
Le docteur se leva, tira le lit, passa dans la ruelle et alla prendre entre les rideaux la place que le squelette était censé occuper. « Et maintenant, dit-il, le voyez-vous toujours ?
Ben, je ne vois plus le bas de son corps, attendu que le vôtre à vous me le cache, mais je vois son crâne.
Où cela ?
Ben, au-dessus de votre épaule droite. C'est comme si vous aviez deux têtes, l'une vivante et l'autre morte. »
Le docteur, tout incrédule qu'il était, frissonna malgré lui. Il se retourna, mais il ne vit rien. « Mon ami, dit-il tristement en revenant au malade, si vous avez quelques dispositions testamentaires à faire, faites-les. » Et il sortit. 9 jours après, John, en entrant dans la chambre de son maître, le trouva mort dans son lit. Il y avait 3 mois, jour pour jour, que le bandit avait été exécuté. Chapitre 9. Les tombeaux de Saint-Denis. « Eh bien, qu'est-ce que cela prouve, docteur ? » demanda M. Ledru. « Ben, cela prouve que les organes qui transmettent au cerveau les perceptions qu'ils reçoivent peuvent se déranger par suite de certaines causes, au point d'offrir à l'esprit un miroir infidèle, et qu'en pareil cas, on voit des objets et on entend des sons qui n'existent pas, voilà tout. Cependant, dit le chevalier Lenoir avec la timidité d'un savant de bonne foi, cependant, il arrive certaines choses qui laissent une trace, certaines prophéties qui ont un accomplissement. Comment expliquerez-vous, docteur, que des coups donnés par des spectres ont pu faire naître des places noires sur le corps de celui qui les a reçues ? Comment expliquerez-vous qu'une vision ait pu 10, 20, 30 ans auparavant révéler l'avenir ? Ce qui n'existe pas peut-il meurtrir ce qui est ou annoncer ce qui sera ? Ha ha, dit le docteur. Vous voulez parler de la vision du roi de Suède ?
Non, 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 je veux parler de ce que j'ai vu moi-même.
Vous ?
Moi ?
Où cela ?
À Saint-Denis.
Quand cela? En 1794, lors de la profanation des tombes. Ah oui, écoutez cela, docteur, dit Monsieur Ledru. Quoi? Qu'avez-vous vu? Dites. Bien voici. En 1793, j'avais été nommé directeur du musée des monuments français, et comme tel, je fus présent à l'exhumation des cadavres de l'abbaye de Saint-Denis, dont les patriotes éclairés avaient changé le nom en celui de Franciade. Je puis, après 40 ans, vous raconter les choses étranges qui ont signalé cette profanation. La haine que l'on était parvenu à inspirer au peuple pour le roi Louis XVI et que n'avait pu assouvir l'échafaud du 21 janvier avait remonté au roi de sa race et on voulait poursuivre la monarchie jusqu'à sa source, les monarques jusque dans leur tombe et jeter au vent la cendre de 60 rois. Puis aussi, peut-être, eut-on la curiosité de voir si les grands trésors que l'on prétendait enfermer dans quelques-uns de ces tombeaux s'étaient conservés aussi intacts qu'on le disait. Le peuple se rua donc sur Saint-Denis. Du 6 au 8 août, il détruisit 51 tombeaux, l'histoire de 12 siècles. Alors le gouvernement résolut de régulariser ce désordre, de fouiller pour son propre compte les tombeaux et d'hériter de la monarchie qu'il venait de frapper dans Louis XVI, son dernier représentant. Puis il s'agissait d'anéantir jusqu'au nom, jusqu'au souvenir, jusqu'aux ossements des rois. Il s'agissait de rayer de l'histoire 14 siècles de monarchie. Pauvre fou! Qui ne comprennent pas que les hommes peuvent parfois changer l'avenir, jamais le passé. On avait préparé dans le cimetière une grande fosse commune sur le modèle des fosses des pauvres. C'est dans cette fosse et sur un lit de chaux que devaient être jetés comme à une voirie les ossements de ceux qui avaient fait de la France la première des nations depuis Dagobert jusqu'à Louis XV. Ainsi, satisfaction étant donnée au peuple, mais surtout jouissance était donnée à ses législateurs, à ses avocats, à ses journalistes envieux, oiseaux de proie des révolutions, dont l'œil est blessé par toute splendeur, comme l'œil de leurs frères, les oiseaux de nuit, est blessé par toute lumière. L'orgueil de ceux qui ne peuvent édifier est de détruire. Alors je fus nommé inspecteur des fouilles. C'était pour moi un moyen de sauver une foule de choses précieuses. J'acceptais. Le samedi 12 octobre, pendant que l'on instruisait le procès de la reine, je fis ouvrir le caveau des Bourbons du côté des chapelles souterraines, et je commençai par en tirer le cercueil de Henri IV, mort à assassiner le 14 mai 1610, âgé de 57 ans. Quant à la statue du Pont-Neuf, chef-d'œuvre de Jean de Bologne et de son élève, elle avait été fondue pour en faire des gros sous. Le corps de Henri IV était merveilleusement conservé. Les traits du visage, parfaitement reconnaissables, étaient bien ceux que l'amour du peuple et le pinceau de Rubens sont consacrés. Quand on le vit sortir le premier de la tombe et paraître au jour dans son suaire, bien conservé comme lui, l'émotion fut grande. Et à peine si ce cri de « Vive Henri IV !», si populaire en France, ne retentit point instinctivement sous les voûtes de l'église. Quand je vis ces marques de respect, je dirais même d'amour, je fis mettre le corps tout debout contre une des colonnes du chœur, et là, chacun put venir le contempler. Il était vêtu, comme de son vivant, de son pourpoint de velours noir, sur lequel se détachaient ses fraises et ses manchettes blanches, de sa trousse de velours pareil au pourpoint, de bas de soie de même couleur, de souliers de velours. Ses beaux cheveux grisonnants faisaient toujours une auréole autour de sa tête, et sa belle barbe blanche tombait toujours sur sa poitrine. Alors commença une immense procession, comme à la chasse d'un saint. Les femmes venaient toucher les mains du bon roi, d'autres baisaient le bas de son manteau, d'autres faisaient mettre leurs enfants à genoux, murmurant tout bas, « Ah, s'il vivait, le pauvre peuple ne serait pas si malheureux !» Et elles eussent pu ajouter, « Ni si féroce, car ce qui fait la férocité du peuple, c'est le malheur. » Cette procession dura pendant toute la journée du samedi 12 octobre, du dimanche 13 et du lundi 14. Le lundi, les fouilles recommencèrent après le dîner des ouvriers, c'est-à-dire vers 3 heures après-midi. Le premier cadavre qui vit le jour après celui de Henri IV fut celui de son fils Louis XIII. Il était bien conservé, et quoique les traits du visage fussent affaissés, on pouvait encore le reconnaître à sa moustache. Puis vint celui de Louis XIV, reconnaissable à ses grands traits qui ont fait de son visage le masque typique des Bourbons. Seulement, il était noir comme de l'encre. Puis vinrent successivement ceux de Marie de Médicis, deuxième femme de Henri IV, d'Anne d'Autriche, femme de Louis XIII, de Marie-Thérèse, infante d'Espagne et femme de Louis XIV, et du grand dauphin. Tous ces corps étaient putréfiés. Seulement celui du grand dauphin était en putréfaction liquide. Le mardi 15 octobre, les exhumations continuèrent. Le cadavre de Henri IV était toujours là, debout contre sa colonne, et assistant impassible à ce vaste sacrilège qui s'accomplissait à la fois sur ses prédécesseurs et sur sa descendance. Le mercredi 16, juste au moment où la reine Marie-Antoinette avait la tête tranchée sur la place de la Révolution, c'est-à-dire à 11 heures du matin, on tirait à son tour du caveau des Bourbons le cercueil du roi Louis XV. Il était, selon l'antique coutume du cérémonial de France, couché à l'entrée du caveau où il attendait son successeur, qui ne devait pas venir l'y rejoindre. On le prit, on l'emporta et on l'ouvrit dans le cimetière seulement et sur les bords de la fosse. D'abord, le corps retiré du cercueil de plomb et bien enveloppé de linge et de bandelettes paraissait entier et bien conservé. Mais, dégagé de ce qui l'enveloppait, il n'offrait plus que l'image de la plus hideuse putréfaction, et il s'en échappa une odeur tellement infecte que chacun s'enfuit et qu'on fut obligé de brûler plusieurs livres de poudre pour purifier l'air. On jeta aussitôt dans la fosse ce qui restait du héros du parc aux cerfs, de la mort de Madame de Châteauroux, de Madame de Pompadour et de Madame du Barry. Et tombé sur un lit de chaux-vive, on recouvrit de chaux-vive ces immondes reliques. J'étais resté le dernier pour faire brûler les artifices et jeter la chaux, quand j'entendis un grand bruit dans l'église. J'y entrai vivement et j'aperçus un ouvrier qui se débattait au milieu de ses camarades, tandis que les femmes lui montraient le poing et le menaçaient. Le misérable avait quitté sa triste besogne pour aller voir un spectacle plus triste encore, l'exécution de Marie-Antoinette. Puis, enivré des cris qu'il avait poussés et entendu pousser, de la vue du sang qu'il avait vu répandre, il était revenu à Saint-Denis et, s'approchant de Henri IV, dressé contre son pilier et toujours entouré de curieux, et je dirais presque de dévots, « De quel droit, lui avait-il dit, restes-tu debout ici, toi, quand on coupe la tête des rois sur la place de la Révolution ?» Et en même temps, saisissant la barbe de la main gauche, il l'avait arrachée, tandis que de la droite, il donnait un soufflet au cadavre royal. Le cadavre était tombé à terre en rendant un bruit sec, pareil à celui d'un sac d'ossements qu'on eût laissé tomber. Aussitôt, un grand cri s'était élevé de tous côtés. Un tel autre roi que ce fur n'eût pu risquer à pareil outrage, mais à Henri IV, au roi du peuple, c'était presque un outrage au peuple. L'ouvrier sacrilège courait donc le plus grand risque lorsque j'accourus à son secours. Dès qu'il vit qu'il pouvait trouver en moi un appui, il se mit sous ma protection. Mais, tout en le protégeant, je voulus le laisser sous le poids de l'action infâme qu'il avait commise. « Mes enfants, dis-je aux ouvriers, laissez ce misérable, celui qui l'a insulté en a laissé ses bonnes positions là-haut pour obtenir de lui son châtiment. » Puis, lui ayant repris la barbe qu'il avait arrachée au cadavre, et qu'il tenait toujours de la main gauche, je le chassai de l'église, en lui annonçant qu'il ne faisait plus partie des ouvriers que j'employais. Les huées et les menaces de ses camarades le poursuivirent jusque dans la rue. Craignant de nouveaux outrages à Henri IV, j'ordonnai qu'il fût porté dans la fosse commune, mais jusque-là, le cadavre fut accompagné de marques de respect. Au lieu d'être jeté comme les autres au charnier royal, il y fut descendu, déposé doucement et couché avec soin à l'un des angles, puis une couche de terre, au lieu d'une couche de chaux, fut pieusement étendue sur lui. La journée finie, les ouvriers se retirèrent. Le gardien seul resta. C'était un brave homme que j'avais placé là, de peur que la nuit on ne pénétrât dans l'église, soit pour exécuter de nouvelles mutilations, soit pour opérer de nouveaux vols. Ce gardien dormait le jour et veillait de 7 heures du soir à 7 heures du matin. Il passait la nuit debout et se promenait pour s'échauffer ou assis près d'un feu allumé contre un des piliers les plus proches de la porte. Tout présentait dans la basilique l'image de la mort, et la dévastation rendait cette image de la mort plus terrible encore. Les caveaux étaient ouverts et les dalles dressées contre les murailles. Les statues brisées jonchaient le pavé de l'église. Çà et là, des cercueils éventrés avaient restitué les morts dont ils croyaient n'avoir à rendre compte qu'au jour du jugement dernier. Tout enfin portait l'esprit de l'homme, si cet esprit était élevé, à la méditation, mais s'il était faible, à la terreur. Heureusement, le gardien n'était pas un esprit, mais une matière organisée. Il regardait tous ces débris du même œil qu'il eût regardé une forêt en coupe ou un champ fauché, et n'était préoccupé que de compter les heures de la nuit, voix monotone de l'horloge, seule chose qui fût restée vivante dans la basilique désolée. Au moment où sonna minuit, et où vibrait le dernier coup du marteau dans les sombres profondeurs de l'église, il entendit de grands cris venant du côté du cimetière. Ces cris étaient des cris d'appel, de longues plaintes, de douloureuses lamentations. Après le premier moment de surprise, Il s'arma d'une pioche et s'avança vers la porte qui faisait communication entre l'église et le cimetière. Mais, cette porte ouverte, reconnaissant parfaitement que ces cris venaient de la fosse des rois, il osa aller plus loin, referma la porte et accourut me réveiller à l'hôtel où je logeais. Bon, je me refusais d'abord à croire à l'existence de ces clameurs sortant de la fosse royale. Mais comme je logeais juste en face de l'église, le gardien ouvrit ma fenêtre et au milieu du silence troublé par le seul bruissement de la brise hivernale, je crus effectivement entendre de longues plaintes qui me semblaient n'être pas seulement la lamentation du vent. Je me levai et j'accompagnai le gardien jusque dans l'église. Arrivé là, et le porche refermé derrière nous, nous entendîmes plus distinctement les plaintes dont il avait parlé. Il était d'autant plus facile de distinguer d'où venaient ces plaintes que la porte du cimetière, mal fermée par le gardien, s'était rouverte derrière lui. C'était donc du cimetière, effectivement, que ces plaintes venaient. Nous allumâmes deux torches et nous nous acheminâmes vers la porte. Mais trois fois, en approchant de cette porte, le courant d'air qui s'était établi du dehors au dedans les éteignit. Je compris que c'était comme ces détroits difficiles à franchir et qu'une fois étant dans le cimetière, nous n'aurions plus la même lutte à soutenir. Je fis, outre nos torches, allumer une lanterne. Nos torches s'éteignirent, mais la lanterne persista. Nous franchîmes le détroit, et une fois dans le cimetière, nous rallumâmes nos torches que respecta le vent. Cependant, au fur et à mesure que nous approchions, les clameurs s'en étaient allées mourantes, et au moment où nous arrivâmes au bord de la fosse, elles étaient à peu près éteintes. Nous secouâmes nos torches au-dessus de la vaste ouverture, et au milieu des ossements, sur cette couche de chaux et de terre toute trouée par eux, nous vîmes quelque chose d'informe qui se débattait. Ce quelque chose ressemblait à un homme. « Qu'avez-vous et que voulez-vous ? » demandai-je à cette espèce d'ombre. « Hélas ! » murmura-t-elle, « je suis le misérable ouvrier qui a donné un soufflet à Henri IV. « Et comment es-tu là ? » demandai-je. « Oh, tirez-moi d'abord de là, monsieur le noir, car je me meurs et ensuite vous saurez tout. » Du moment que le gardien des morts s'était convaincu qu'il avait affaire à un vivant, la terreur qui d'abord s'était emparée de lui avait disparu. Il avait déjà dressé une échelle couchée dans les herbes du cimetière, tenant cette échelle debout et attendant mes ordres. Je lui ordonnai de descendre l'échelle dans la fosse et j'invitai l'ouvrier à monter. Il se traîna, en effet, jusqu'à la base de l'échelle. Mais arrivé là, lorsqu'il fallut se dresser debout et monter les échelons, il s'aperçut qu'il avait une jambe et un bras cassés. Nous lui jetâmes une corde avec un nœud coulant. Il passa cette corde sous ses épaules. Je conservai l'autre extrémité de la corde entre mes mains. Le gardien descendit quelques échelons, et grâce à ce double soutien, nous parvîmes à tirer ce vivant de la compagnie des morts. À peine fut-il hors de la fosse qu'il s'évanouit. Nous l'emportâmes près du feu. Nous le couchâmes sur un lit de paille, puis j'envoyai le gardien chercher un chirurgien. Le gardien revint avec un docteur avant que le blessé eût repris connaissance, et ce fut seulement pendant l'opération
qu'il ouvrit les yeux. Le pansement fait, je remerciai le chirurgien, et comme je voulais savoir par quelle étrange circonstance le profanateur se trouvait dans la tombe royale, je renvoyai à son tour le gardien. Celui-ci ne demandait pas mieux que d'aller se coucher après les émotions d'une pareille nuit, et je restai seul près de l'ouvrier. Je m'assis sur une pierre près de la paille où il était couché, et en face du foyer, dont la flamme tremblante éclairait la partie de l'église où nous étions, laissant toutes les profondeurs dans une obscurité d'autant plus épaisse que la partie où nous nous trouvions était dans une plus grande lumière. J'interrogeai alors le blessé, et voici ce qu'il me raconta. Son renvoi l'avait peu inquiété. Il avait de l'argent dans sa poche, et jusque-là, il avait vu qu'avec de l'argent, on ne manquait de rien. En conséquence, il était allé s'établir au cabaret. Au cabaret, il avait commencé d'entamer une bouteille, mais au troisième verre, il avait vu entrer l'hôte. « Ah, avez-vous bientôt fini ?» avait demandé celui-ci. « Et pourquoi cela ?» avait répondu l'ouvrier. « Parce que j'ai entendu dire que c'était toi qui avais donné un soufflet à Henri IV. »« Eh bien oui, c'est moi, » dit insolemment l'ouvrier. « Après ?»« Après, oh, je ne veux pas donner à boire à un méchant coquin comme toi, qui appellera la malédiction sur ma maison. » »« Ta maison, mais ta maison est la maison de tout le monde, et du moment où l'on paie, on est chez soi. » Oui, mais tu ne paieras pas, toi. Et pourquoi cela? Parce que je ne veux pas de ton argent. Or, comme tu ne paieras pas, tu ne seras pas chez toi, mais chez moi. Et comme tu seras chez moi, j'aurai le droit de te mettre à la porte. Oui, si tu es le plus fort. Bon, si je ne suis pas le plus fort, j'appellerai mes garçons. Eh bien, appelle un peu que nous voyons. Le cabaretier avait appelé. Trois garçons, prévenus d'avance, étaient entrés à sa voix, chacun avec un bâton à la main, et force avait été à l'ouvrier, si bonne envie qu'il eut de résister, de se retirer sans mot dire. Alors il était sorti, avait erré quelque temps par la ville, et à l'heure du dîner, il était entré chez le gargotier, où les ouvriers avaient l'habitude de prendre leur repas. Il venait de manger sa soupe quand les ouvriers, qui avaient fini leur journée, entrèrent. En l'apercevant, ils s'arrêtèrent au seuil et, appelant l'hôte, lui déclarèrent que si cet homme continuait à prendre ses repas chez lui, il déserterait sa maison depuis le premier jusqu'au dernier. Le gargotier demanda ce qu'avait fait cet homme, qui était ainsi en proie à la réprobation générale. On lui dit que c'était l'homme qui avait donné un soufflet à Henri IV. « Alors, sors d'ici !» dit le gargotier en s'avançant vers lui. « Et puisse que tu as mangé te servir de poison !» Il y avait encore moins possibilité de résister chez le gargotier que chez le marchand de vin. L'ouvrier maudit se leva en menaçant ses camarades, qui s'écartèrent devant lui, non pas à cause des menaces qu'il avait proférées, mais à cause de la profanation qu'il avait commise. Il sortit la rage dans le cœur, erra une partie de la soirée dans les rues de Saint-Denis, jurant et blasphémant. Puis vers les 10 heures, il s'achemina vers son garni. Comme contre l'habitude de la maison, les portes étaient fermées. Il frappa à la porte. Le logeur parut à une fenêtre. Comme il faisait nuit sombre, il ne put reconnaître celui qui frappait. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il. L'ouvrier se nomma. « Ah ! » dit le logeur, C'est toi qui as donné un soufflet à Henri IV. Attends. Quoique faut-il que j'attende, dit l'ouvrier avec impatience. En même temps, un paquet tomba à ses pieds. Qu'est-ce que c'est que cela? Demanda l'ouvrier. Ben, tout ce qu'il y a à toi ici. Comment, tout ce qu'il y a à moi ici? Ouais, tu peux aller coucher où tu voudras. J'ai pas envie que ma maison me tombe sur la tête. L'ouvrier furieux prit un pavé et le jeta dans la porte. Attends, dit le logeur. Je vais réveiller tes compagnons et nous allons voir. L'ouvrier comprit qu'il n'avait rien de bon à attendre. Il se retira, et ayant trouvé une porte ouverte à 100 pas de là, il entra et se coucha sous un hangar. Sous ce hangar, il y avait de la paille, il se coucha sur cette paille et s'endormit. À 15h15, il lui sembla que quelqu'un lui touchait sur l'épaule. Il se réveilla et vit devant lui une forme blanche, ayant l'aspect d'une femme, et qui lui faisait signe de le suivre. Il crut que c'était une de ces malheureuses qui ont toujours un gîte et du plaisir à offrir à qui veut payer le gîte et le plaisir. Et comme il avait de l'argent, comme il préférait passer la nuit à couvert et coucher dans un lit, à la passer dans un hangar et coucher sur la paille, il se leva et suivit la femme. La femme longea un instant les maisons du côté gauche de la grande rue, puis elle traversa la rue, prit une ruelle à droite, faisant toujours signe à l'ouvrier de la suivre. Celui-ci, habitué à ce manège nocturne, connaissant par expérience les ruelles où se logent ordinairement les femmes du genre de celles qu'il suivait, ne fit aucune difficulté et s'engagea dans la ruelle. La ruelle aboutissait au champ. Il crut que cette femme habitait une maison isolée et la suivit encore. Au bout de 100 pas, ils traversèrent une brèche. Mais tout à coup, ayant levé les yeux, il aperçut devant lui la vieille abbaye de Saint-Denis, avec son clocher gigantesque et ses fenêtres légèrement teintées par le feu intérieur, près duquel veillait le gardien. Il chercha des yeux la femme, elle avait disparu. Il était dans le cimetière. Il voulut repasser par la brèche. Mais sur cette brèche, sombre, menaçant, le bras tendu vers lui, il lui sembla voir le spectre de Henri IV. Le spectre fit un pas en avant et l'ouvrier un pas en arrière. Au 4e ou 5e pas, la terre manqua sous ses pieds et il tomba à la renverse dans la fosse. Alors, il lui sembla voir se dresser autour de lui tous ses rois, prédécesseurs et descendants de Henri IV. Alors, il lui sembla qu'il levait sur lui les uns leurs sceptres, les autres leurs mains de justice, en criant « Malheur au sacrilège !» Alors, il lui sembla qu'au contact de ses mains de justice et de ses sceptres pesants comme du plomb, brûlant comme du feu, il sentait l'un après l'autre ses membres brisés. C'est en ce moment que minuit sonnait et que le gardien entendait les plaintes. Je fis ce que je peux pour rassurer ce malheureux, mais sa raison était égarée, et après un délire de 3 jours, il mourut en criant grâce. « Pardon, dit le docteur, mais je ne comprends point parfaitement la conséquence de votre récit. L'accident de votre ouvrier prouve que la tête préoccupée de ce qui lui était arrivé dans la journée soit en état de veille, soit en état de somnambulisme. Il s'est mis à errer la nuit, qu'en errant, il est entré dans le cimetière et que, tandis qu'il regardait en l'air, au lieu de regarder à ses pieds, il est tombé dans la fosse où, naturellement, il s'est dans sa chute cassé un bras et une jambe. Or, vous avez parlé d'une prédiction qui s'est réalisée. Je ne vois pas dans tout ceci la plus petite prédiction. Attendez, docteur, dit le chevalier. L'histoire que je viens de raconter, et qui, vous avez raison, n'est qu'un fait, mène tout droit à cette prédiction que je vais vous dire et qui est un mystère. Cette prédiction, la voici. Vers le 20 janvier 1794, après la démolition du tombeau de François Ier, on ouvrit le sépulcre de la comtesse de Flandre, fille de Philippe le Long. Ces deux tombeaux étaient les derniers qui restaient à fouiller. Tous les caveaux étaient effondrés, tous les sépulcres étaient vides, tous les ossements étaient au charnier. Une dernière sépulture était restée inconnue, c'était celle du cardinal de Metz, qui, disait-on, avait été enterré à Saint-Denis. Tous les caveaux avaient été refermés, ou à peu près, caveau des Valois et caveau des Charles. Il ne restait que les caveaux des Bourbons, que l'on devait fermer le lendemain. Le gardien passait sa dernière nuit dans cette église où il n'y avait plus rien à garder. Permission lui avait donc été donnée de dormir, et il profitait de la permission. À minuit, il fut réveillé par le bruit de l'orgue et des chants religieux. Il se réveilla, se frotta les yeux et tourna la tête vers le chœur, c'est-à-dire du côté d'où venaient les chants. Alors il vit, avec étonnement, les stalles du chœur garnies par les religieux de Saint-Denis. Il vit un archevêque officiant à l'autel. Il vit la chapelle ardente allumée, et sous la chapelle ardente allumée, le grand drap d'or mortuaire qui d'habitude ne recouvre que le corps des rois. Au moment où il se réveillait, la messe était finie et le cérémonial de l'enterrement commençait. Le sceptre, la couronne et la main de justice, posés sur un coussin de velours rouge, étaient remis aux héros qui les présentèrent à trois princes, lesquels les prirent. Aussitôt s'avancèrent, plutôt glissant que marchant, et sans que le bruit de leurs pas éveillât le moindre écho dans la salle, les gentilshommes de la chambre qui prirent le corps et qui le portèrent dans le caveau des Bourbons, resté seul ouvert, tandis que tous les autres étaient refermés. Alors le roi d'armes y descendit, et lorsqu'il y fut descendu, il cria aux autres héros d'avoir à venir ici faire leur office. Le roi d'armes et les héros étaient au nombre de 5. Du fond du caveau, le roi d'armes appela le premier héros, qui descendit, portant les éperons, puis le second, qui descendit, portant les gantelets, puis le troisième, qui descendit, portant les culs, puis le quatrième, qui descendit, portant l'armée timbrée, puis le cinquième, qui descendit, portant la cotte d'armes. Ensuite, il appela le premier valet tranchant, qui apporta la bannière, les capitaines des Suisses, des archers de la garde et des 200 gentilshommes de la maison, le grand écuyer qui apporta l'épée royale, le premier chambellan qui apporta la bannière de France, le grand maître devant lequel tous les maîtres d'hôtel passèrent, jetant leur bateau blanc dans le caveau et saluant les trois princes porteurs de la couronne, du sceptre et de la main de justice,
au fur et à mesure qu'ils défilaient. Les trois princes, qui apportèrent à leur tour sceptre, main de justice et couronne. Alors le roi d'armes cria à voix haute et par trois fois : Le roi est mort, vive le roi ! Le roi est mort, vive le roi ! Le roi est mort, vive le roi ! Un héros qui était resté dans le cœur répéta le triple cri. Enfin, le grand maître brisa sa baguette en signe que la maison royale était rompue et que les officiers du roi pouvaient se pourvoir. Aussitôt, les trompettes retentirent et l'orgue s'éveilla. Puis, tandis que les trompettes sonnaient toujours plus faiblement, tandis que l'orgue gémissait de plus en plus bas, les lumières des cierges pâlirent, les corps des assistants s'effacèrent, et au dernier gémissement de l'orgue, au dernier son de la trompette, tout disparut. Le lendemain, le gardien, tout en larmes, raconta l'enterrement royal qu'il avait vu et auquel lui, pauvre homme, assistait seul, prédisant que ses tombeaux mutilés seraient remis en place, et que malgré les décrets de la Convention et l'œuvre de la guillotine, la France reverrait une nouvelle monarchie et à Saint-Denis de nouveaux rois. Cette prédilection valut la prison et presque l'échafaud au pauvre diable, qui 30 ans plus tard, c'est-à-dire le 20 septembre 1824, derrière la même colonne où il avait eu sa vision, me disait, en me tirant par le basque de mon habit, « Eh bien, monsieur le Noir, quand je vous disais que nos pauvres rois reviendraient un jour à Saint-Denis, m'étais-je trompé ?» En effet, ce jour-là, on enterrait Louis XVIII avec le même cérémonial que le gardien des tombeaux avait vu pratiquer 30 ans auparavant. Expliquez celle-là, docteur.